on peut pas imaginer vouloir expérimenter, voir et témoigner de gens qui sont sous les bombes et qui risquent leur vie sans soi-même prendre une partie des risques. On est dans une société qui demande de plus en plus de sécurité, mais les conséquences par rapport à ce métier ne sont pas très positives.
Une vie de risque que le photographe de guerre Laurent Vanderstock vit au quotidien actuellement en Ukraine. Par son travail, il devient ainsi le témoin d'une histoire que nous vivons collectivement. Il participe à sa façon à la représentation de la guerre. Dans notre mémoire collective, il y a, entre autres, cette photo d'un soldat républicain espagnol fauché dans sa course, prise par Robert Capa, la petite fille au napalm de Nick Haute pendant la guerre du Vietnam. Cette première guerre du Golfe, vécue en direct sur nos écrans de télé, le corps du petit Elan sur une plage turque capté par Niloufer Demir. Depuis plus d'une semaine, un flot d'images nous parvient d'Ukraine, des instantanés pris par des photographes professionnels, des anonymes aussi, des habitants apeurés, des TikTokers dépassés. Mais comment représenter la guerre en 2022 ? À quel point le travail des photojournalistes a évolué depuis le siècle dernier ? Et participe-t-il à l'écriture de l'histoire ? Vous écoutez l'Instant M sur France Inter.
L'Instant M, Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous. En ce vendredi 4 mars, il est temps pour moi de remercier l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied, et c'est un euphémisme cette semaine. Un immense merci à Redouane Tella, rédacteur en chef, à Marion Philippe et Sana Rezakbara à la préparation de l'émission, à Frédéric Milano à la réalisation, ainsi que Sofiane Aktib à la technique aujourd'hui. Depuis plus d'une semaine, je vous le disais, notre monde médiatique est abreuvé d'images venant de l'Est. La guerre en direct, à coups de photos, de vidéos, de posts aussi sur les réseaux sociaux. Quel regard critique pouvons-nous porter sur ces images de la guerre ? Pour aborder ce sujet, deux invités. Bonjour Dimitri Beck.
Bonjour Eva.
Vous êtes directeur de la photographie du magazine Polka et vous connaissez très bien notre deuxième invité qui est assis à côté de vous. Bonjour Guillaume Herbault.
Bonjour.
C'est un honneur de vous recevoir ce matin. Vous êtes photojournaliste ou photographe de guerre ? Qu'est-ce qu'on doit dire d'ailleurs ?
Non, je suis photographe et photojournaliste.
Oui.
Photographe de guerre, c'est un grand mot.
C'est un grand mot ?
Oui.
C'est un mot fantasmé ?
Non, mais pour moi en tout cas, oui. J'ai été sur des territoires de guerre, mais vous avez fait parler Laurent Vanderstock au début. C'est un grand photographe de guerre, Laurent.
Votre travail photographique, Guillaume Herbault, a été maintes fois récompensé par les prix les plus prestigieux. Vous connaissez très bien l'Ukraine où vous étiez encore il y a quelques jours et vous rentrez à peine de Pologne. Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas votre travail, est-ce que vous pouvez décrire une des photos qui vous a marqué, que vous venez de faire en Ukraine notamment ?
Une photo qui m'a marqué, c'est plutôt un moment qui m'a marqué. C'était juste avant la partie active du conflit avec les Russes. C'était en banlieue de Kiev et je photographiais des civils qui s'entraînaient à la guerre, qui se préparaient et qui avaient des kalachnikovs en bois. Et c'était très touchant. Ça pouvait paraître ridicule de voir des gens avec des kalachnikovs en bois. Et en fait, c'était extrêmement touchant parce que c'était des mères de famille, parfois des grands-mères, des jeunes ados, et qui étaient déterminés, et qui avaient peur et qui étaient déterminés.
Est-ce qu'une photo de guerre est une photo comme une autre ?
C'est une grande question, une photo de guerre. Est-ce que c'est une photo, une photo de...
Peut-être que Dimitri peut y répondre.
Non, je crois que la photo de guerre, heureusement, elle chasse l'autre et une autre actualité doit chasser l'autre. Une photo de guerre, elle a son statut, elle a son importance. Elle est là pour nous informer, pour nous sensibiliser, mais on espère qu'elle ne va pas rester et qu'on est dans l'attente d'autre chose. Et d'ailleurs, une non-photo de guerre, une photo de paix. On attend une photo de paix impérativement après la photo de guerre.
Est-ce qu'il y a une photo, vous Dimitri Beck, qui vous a marqué, qui provient d'Ukraine depuis ces derniers jours ?
Ces jours-ci, c'est vraiment le flot de ces réfugiés, de ces gens qui fuient leur pays, des familles, beaucoup de femmes avec leurs enfants, parce que les hommes sont obligés de rester sur le front et de s'engager. Les 18-60 ans, je crois, doivent prendre les armes pour défendre le pays. Et donc, ce sont principalement les femmes ou les personnes âgées avec les enfants qui partent. Et ça nous renvoie à toute une imagerie de tous ces conflits. L'ex-Yougoslavie aussi, c'était un grand conflit du siècle passé déjà.
Oui, c'est ça.
En Europe, c'était à nos ports, 2h30 d'avion seulement de Paris. On a tous été marqués profondément par ça. Donc, bien sûr, dans cette imagerie, il y a toujours les gens en pleurs, les douleurs. Mais là, on est en plein hiver aussi. Il y a les couvertures, le froid, la précarité. Alors, on entend, et d'ailleurs, entre autres sur votre antenne, les gens, pas plus tard qu'il y a une demi-heure ou trois quarts d'heure, disaient, c'est étonnant, on ne paye rien. Les gens, il y a un grand élan de solidarité. Certes, pour le moment, mais combien de temps ? Parce que avec le temps et avec ces multiples images de guerre et les jours qui vont s'égrener comme ça, eh bien, tout risque de changer aussi. On a déjà plus d'un million, enfin, pas loin d'un million
de réfugiés, bien sûr.
En interne et puis surtout à l'extérieur. Et combien de temps ça va durer ? Tout dépend de ce que Poutine va décider de faire.
Guillaume Herbeau, dans quelles conditions vous travaillez en ce moment sur le terrain ? Ça ressemble à quoi votre quotidien ?
Mais mon quotidien, là, il est très particulier parce que ça fait 20 ans que je vais en Ukraine. Ouais. Et j'ai fait le choix... ma question toujours en tant que photographe, c'est comment je me positionne par rapport à l'événement ? Et pour être le plus sincère, le plus honnête dans ma photographie. Et là, en fait, j'étais en Pologne, j'étais à la frontière polonaise. Je pouvais passer en Ukraine, mais j'étais touché trop par l'émotion en tant que photographe, mais aussi en tant que personne. Voilà. Et je pensais à mes amis qui étaient de l'autre côté, que je connais bien, qui étaient plus en train de fuir le pays. Et en fait, je me suis dit, je suis trop bousculé par mes émotions pour partir de l'autre côté. Il vaut mieux attendre pour revenir et donner plus de sens en fait dans ma photographie.
Et lui apporter du sens et de la justesse en fait, une forme de véracité que vous n'auriez pas si vous êtes trop pris
par l'émotion. Et puis être trop pris par l'émotion, ça peut devenir dangereux sur le terrain.
Donc, parce qu'on fait moins attention.
On peut faire moins attention, on peut prendre des décisions qui sont un peu stupides par rapport au danger. Et donc, faut penser exactement à ça. Et puis, faut sentir vraiment. J'étais avec une journaliste, et c'est vrai qu'à chaque fois, on se disait, on doit sentir les choses avant de partir. Et moi, je l'ai pas senti là. Et puis, mon travail, il s'inscrit dans le temps. Je vais sur la ligne de front en Ukraine depuis 8 ans. Je ne lâche pas l'histoire. Je me suis battu chaque année pour qu'on continue à parler de l'Ukraine et pour qu'on n'oublie pas la guerre dans le Donbass, pour qu'on n'oublie pas les civils qui vivent sur la ligne de front et qui reçoivent depuis 8 ans tous les soirs des tirs. Et aujourd'hui, en fait, donc je suis plus un photographe qui parle du temps arrêté, du silence dans la guerre. Et là, en fait, on est dans le bruit. Et il y a une masse de photographes qui arrivent. Et là, je me dis, en fait, ma place de photographe, mon travail, ne doit attendre, en fait, pour raconter les choses.
Est-ce que vous vous sentez quand même en danger à chaque fois que vous partez ? Est-ce que le danger est vraiment omniprésent, même pour vous en tant que personne ? Vous voyez, au-delà de la profession que vous exercez ?
Bah, le danger, oui, quand on va sur un territoire dangereux, il est omniprésent. Après, il faut savoir le gérer.
Ouais.
La peur est un bon indicateur, en fait. Il faut avoir...
C'est peut-être ça que je voulais vous demander et que je réalisais pas. Est-ce que vous avez peur encore aujourd'hui?
Bah, il faut avoir peur, hein. C'est l'alarme à côté de nous, dans notre tête, qui nous dit attention. Il y a Éric Bouvet qui dit,
qui est un grand photojournaliste.
Qui est un grand photographe.
Ouais.
Et qui a une
Ukraine en ce moment.
Oui. Pour vous d'ailleurs, hein, pour Polka.
Ouais.
Qui raconte que la peur, en fait, c'est quelque chose qui doit être dans le vent. Et qui nous indique en fait quand est le danger, donc elle nous protège, il ne faut pas qu'elle arrive dans la tête. Et quand elle arrive dans la tête, en fait, elle nous met vraiment en danger. Donc il faut arriver à la contrôler.
Est-ce que vous acceptez l'idée que vous mettiez une esthétique dans votre photo ? C'est-à-dire, moi quand je regarde vos photos, je trouve qu'il y a à la fois l'information, l'esthétique et une représentation de la violence. Comment on allie tout ça ?
Oui, il y a une esthétique. C'est pas de l'esthétisme, c'est une esthétique. Et l'esthétique, elle permet au lecteur en fait de s'accrocher sur l'image, parce que justement, on est dans un flux d'images, et le flux d'images, en fait, pour moi, nous rend aveugles. Et on doit, en tant que photographe professionnel, se dire comment arrêter le flux. Et pour arrêter le flux, il faut faire des images qui arrêtent le regard.
Ouais.
Et donc, je travaille là-dessus quand je vais sur le terrain.
Dimitri Beck, vous qui avez les yeux rivés depuis des années sur ces photos de guerre, entre autres, hein, pas que ça, mais sur ces photos de guerre, puisque c'est notre sujet. Est-ce que vous avez noté une évolution ? Est-ce qu'on photographie le conflit en Ukraine aujourd'hui comme on représentait la guerre du Vietnam, par exemple ?
Je dirais, comme les scènes se répètent, on dit souvent que l'histoire bégaye, forcément, on retrouve des images similaires.
Oui.
Il n'y a pas de hasard. Il y a un attaquant, il y a une invasion, on a vu des photos de tanks, l'armée, la puissance russe qui débarque, des explosions, des civils, des morts. D'ailleurs, on ne les voit pas beaucoup, d'ailleurs, dans la presse.
Oui, depuis la semaine dernière, on en voit peu. Hein.
Très, très, très peu. Il y a un vrai filtrage qui se fait.
Est-ce qu'on est plus prêt à l'accepter, cette violence visuelle ou pas?
Quelque part, je dirais, c'est dommage aussi parce que peut-être qu'on se dit, oh, c'est des destructions de bâtiments surtout, oui. Alors qu'il y a véritablement des morts sur le terrain et des civils en particulier. Donc, faut pas l'oublier, c'est bien de le rappeler, de temps en temps de le montrer. Il y a une manière de le montrer pour pas être non plus dans une photographie trop crue, limite pornographique, oui. Mais trop violente. Et là, il y a un rôle à jouer de la part des éditeurs et qui est différent. Donc, cette iconographie, elle se répète. Et c'est ça qui est terrible pour nous. Et ce qui est intéressant, pourquoi aussi peut-être Guillaume n'a pas souhaité repartir, bon, au-delà de tout ce qu'il a expliqué, ça c'est très personnel et c'est toujours à respecter, c'est aussi qu'est-ce que l'on va raconter de plus. Mmh. Et Guillaume Herbeau, qui travaille depuis 20 ans en Ukraine, plus de 20 ans maintenant, raconte toujours une histoire. Et c'est pas juste attraper quelques bonnes photos qu'il vendra par-ci, par-là, mais lui, ça doit être une cohérence dans ce qu'il a envie de raconter sur le pays, les gens qu'il connaît, qu'il côtoie, qui pour certains sont des amis, qu'est-ce qu'il inscrit en plus. C'est un nouveau chapitre d'un grand roman qu'il est en train d'écrire.
Guillaume Herbeau, quid de cette représentation de la violence des corps morts? Est-ce que vous vous posez souvent la question?
Moi, je me suis toujours posé la question et quand je suis face à des corps, en fait, je pense toujours aux familles des victimes. Et je me dis, voilà, il faut que j'arrive à garder du respect pour la représentation de ces corps et je me mets, voilà, à la place des parents. Et donc, c'est vrai que dans la première phase de conflit actif en 2014 en Ukraine, j'ai été extrêmement pudique dans la représentation des morts.
Et vous le seriez moins aujourd'hui, vous pensez?
Je ne sais pas. En fait, ça dépend. On ne peut pas savoir. Ouais.
Quels sont les symboles de la guerre telle qu'on la vit depuis quelques jours aujourd'hui, quand on regarde les photos? Est-ce que c'est un char russe, comme vous le disiez tout à l'heure, Dimitri Beck? Est-ce que ce sont les portraits de Zelensky un peu érigés en héros de résistance? Est-ce que c'est le flot des voitures? Parce qu'on n'a pas souvent vu des réfugiés partir en voiture. C'est une image un peu nouvelle par rapport au conflit qu'on a vécu précédemment. Est-ce que ce sont toutes ces images de réfugiés?
On l'a vu avec l'ex-Yougoslavie beaucoup quand même, parce qu'ils pouvaient vraiment prendre la route, c'était l'Europe. Ouais. Il y en a une époque, il y a très longtemps, ils se rappelaient de faire passer par cette Europe-là pour pousser jusqu'à la route des Indes pour d'autres raisons dans les années 70. Là, c'est des gens qui fuyaient, qui allaient vers l'Europe occidentale pour survivre. En fait, tout s'écrit, c'est ce que je disais aussi pour Guillaume, c'est un grand roman et c'est un kaléidoscope de toutes ces images. On a l'invasion, le côté militaire, la préparation, la réponse des citoyens qui s'arment, qui se préparent, qui se calfeutrent, qui s'enferment dans les métros en particulier. C'est toutes ces photographies et ces images que l'on a pu voir en particulier sur les réseaux sociaux de ces civils qui ont très vite dormi dans le métro de Kiev. Ça nous rappelle les bombardements de Londres en 40-41, le Blitz. Ça nous renvoie à cette imagerie-là de cette population qui est soumise à l'arbitraire du jour au lendemain des bombardements. Et moi, ça m'a renvoyé à... C'est l'Europe.
Oui, c'est l'Europe.
Mais en fait, moi, je voudrais rebondir sur les images. Moi, je pense que l'image de cette semaine, parce qu'on n'en est qu'à une semaine de conflit, c'est des images d'amateurs qui montrent des civils arrêter les chars.
C'est étonnant ce que vous dites, parce que pourquoi vous dites images amateurs? Parce que
c'est des images faites par des citoyens dans leur village. Il n'y a pas de photographe actuellement dans ces villages-là. Tout le monde est à Kiev et en région de Kiev et même enfin partout en Ukraine, il y a des mouvements citoyens extrêmement forts de résistance, mais de résistance pacifique, qui massent la foule devant les chars pour bloquer les chars russes.
On les a vus ces photos.
On les a vus, mais ce sont des images faites par un citoyen.
Oui. Est-ce que ça bouleverse la hiérarchie de l'information que vous êtes censé aussi amener? Vous voyez, dans notre métier, une photo ne peut pas être l'égale d'une autre photo. Vous avez un travail de réflexion, vous connaissez cette zone depuis des années, donc vous amenez aussi dans votre photo cette histoire-là, contrairement à une image d'anonyme. En quoi les réseaux sociaux ont bouleversé votre travail?
Mais c'est pas nouveau, cette thématique des réseaux sociaux, on est complètement... En fait, on doit réfléchir autrement. Nous, on sait qu'on n'est pas les premiers témoins, on va être les deuxièmes témoins. Donc, en fait, on doit rajouter du sens dans nos images encore plus. On doit aller encore plus loin, c'est ce que tu disais, hein, Dimitri.
Ça vous a rendu plus exigeant encore ?
Plus exigeant et plus exigeant dans la narration. D'aller beaucoup plus loin dans l'histoire, d'angler encore plus nos reportages, de raconter des histoires singulières. Parce qu'on sait que, dans tous les cas, on arrivera toujours après aujourd'hui.
Comment une photo devient iconique ? Qu'est-ce qui fait qu'une photo devient un moment d'histoire ?
Pour rebondir, Dimitri Beck. Tu parles, Guillaume, de cette imagerie, souvent des vidéos d'amateurs qui montrent un homme qui s'oppose au char. Ça nous renvoie à 1989.
Bien sûr, Tiananmen.
Là, c'est Tiananmen, celui qu'on appelait Tankman. Et d'ailleurs, on a toujours compliqué de savoir l'identité de ce personnage. Mais c'est ça nous renvoie à cette imagerie-là. Une photo qui a été suivie et filmée aussi par des millions de gens. La simplicité de l'être humain, d'individu, d'un citoyen face à la puissance destructrice, militaire, et là en l'occurrence, d'un envahisseur. Ça s'invite à un moment donné, ça devient une image et une imagerie forte qui vient ponctuer le flux permanent des images. Et on s'arrête dessus. Et ça montre aussi, c'est très important pour les gens, les civils, de se dire... J'ai un rôle à jouer, je peux faire quelque chose. Et c'est vraiment ce qui se joue aujourd'hui, d'ailleurs, en Ukraine. Il y a une guerre de l'image. Et Zelensky, s'il utilise si bien les réseaux sociaux, entre autres, c'est parce que c'est quelqu'un qui est un spécialiste de l'image. Il était comédien avant, sa femme, la première dame, était une ancienne productrice de télévision.
Cette histoire-là, bien sûr.
Et il utilise ses réseaux sociaux comme arme de guerre, enfin de défense, parce qu'il est dans la défense aujourd'hui, pour dire, un, qu'il est en vie, deux, qu'il est présent, et trois, de montrer d'apporter du baume au cœur à tous les citoyens qui, eux-mêmes, sur le terrain, tous les jours, doivent se battre et garder le moral et se dire, on est là, on est dans nos rues et on ne lâchera pas la place.
La guerre psychologique passe aussi par la guerre des images. Guillaume Herbeau, est-ce qu'une photo peut changer le monde, selon vous ?
Je crois pas. Quand j'étais très jeune photographe, je pensais que la photographie pouvait changer le monde.
J'avais vous avez trop d'expérience, là.
Voilà. Non, et après, en fait, je pense qu'on est des grains de sable. La photographie, c'est un grain de sable qui peut faire dérailler un train. Et c'est pour ça que je continue à faire de la photo.
Dimitri Beck, vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis tout à fait d'accord. Les photographes sont les premiers à y croire. C'est eux qui vont sur le terrain. C'est eux qui initient tout. Nous, éditeurs, journalistes, et moi travaillant avec les photographes, on est là pour porter leur courage, leur témoignage, et d'accompagner ça, et de le mettre en forme pour que justement, c'est une prise de parole, et on la transmet. Nous sommes aussi des passeurs. Donc c'est un travail en commun qui se fait pour, in fine, comme vous le faites aussi à l'antenne, toucher le public. À la fois informer, sensibiliser, et au bout d'un moment, les opinions publiques peuvent réagir. C'est ce qui s'est passé en particulier avec la guerre du Vietnam. C'est pas une photo qui a arrêté la guerre du Vietnam. C'est un concours de circonstances, un mensonge permanent de la part du gouvernement américain,
oui, tout à
qui devenait tellement gros et impossible à gérer, et surtout toutes ces images régulièrement en 68. Donc cet assassinat sous les caméras photographiques.
Par le chef de la police à Saïgon,
voilà,
tout à fait.
Exactement. Mmh. Cette photographie que vous avez rappelée
prise par
Nick Hutt, la petite fille au Napalm, toutes ces photos-là sont importantes et contribuent, nourrissent et sont un argumentaire très fort, un plaidoyer pour porter un changement possible. Mais ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain.
Alors, si une photo ne transforme pas l'histoire, est-ce que, Guillaume Herbeau, on va finir là-dessus, est-ce que vous avez quand même l'impression de participer à l'écriture d'une histoire ? Avec un grand H, évidemment.
Je ne sais pas encore, j'espère. Ouais. En tout cas, j'essaie que mon travail s'inscrive dans le temps. C'est pour ça que, quand je commence une histoire, je la continue pendant des années et des années et des années.
Alors, on va pouvoir suivre votre travail, notamment dans le journal Le Monde, où là, vous allez suivre une autre guerre, une guerre électorale, c'est ça, la campagne électorale.
Oui, alors à partir de fin mars, je vais commencer une chronique sur la France pendant la période électorale.
Ça va être un grand choc d'images et de sensations, j'imagine, pour vous, et d'émotions.
Ça va être passionnant.
Merci beaucoup à tous les deux. Dimitri Beck, je rappelle que vous êtes directeur de la photographie du formidable magazine Polka, que j'encourage tout le monde à regarder, à acheter et à regarder. Et Guillaume Herbeau, je conseille aux auditeurs et auditrices de visiter d'abord votre site internet et puis de découvrir aussi le programme Carnet de route d'un photographe que vous signez et qui est toujours à voir sur arte.tv. Lundi, vous retrouvez les patentes Sonia De Villers et dans un instant Ali Rebéi en direct du Salon de l'Agriculture. Au programme de Grand Bien Vous Fasse, est-il encore possible de manger bon, sain et pas cher et durable ?